Bonjour et merci de vous savoir nombreux comme d'habitude à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Likeluka. Nous le consacrons à la tuerie de masse à Bambari dans la Waka au centre de Centrafrique. Mardi dernier, des présumés éléments armés de l'UPC, membres de la CPC, ont incendié trois véhicules à 18 km de la ville sur la route d'Alindao. L'attaque a coûté la vie à plusieurs personnes selon l'hôpital et les parents des victimes. Plus d'une trentaine de personnes de toutes catégories confondues ont été tuées, plus d'une dizaine de blessés. Les régions du centre et du centre-est sont une fois de plus menacées d'attaques des rebelles de l'UPC. Ont averti les habitants de Bambari à Alindao en passant par Kimbi dans la Basse-Koto et Bangassou dans le Mbomou. La cause gagne des esprits et le gouvernement a décrété un deuil de trois jours en mémoire des victimes. Ce deuil prend fin officiellement ce samedi. Que faire pour protéger les civils face à la nouvelle stratégie des hommes armés dans ces localités? L'armée est-elle dépassée par le cours des événements? Faut-il y revoir la politique sécuritaire du pays? Si le président Touadéra reconnaît que son pays est en guerre asymétrique, quelle est la stratégie à adopter face aux agissements des hommes armés qui écument la population civile? Pourquoi l'approche du dialogue républicain annoncé par le chef de l'État, l'on assiste au regain de violence? Pour en débattre, nous recevons autour de la table du studio B du média numéro 1 Radio Likeluka, Madame Rachel Ngakola, bonjour.
Bonjour, Monsieur Armando.
Député de Bambari 1 et Christian Emendota, bonjour.
Bonjour Armando.
Journaliste indépendant et observateur social et artisan de paix, Monsieur Alexis Ndouyabela, bonjour.
Bonjour.
Ancien directeur de l'ENAM et membre du bureau politique du parti au pouvoir, et Monsieur Joseph Bendunga, bonjour.
Bonjour Armando.
Député de Bimbo 3 et président du parti MDRC, membre de l'opposition démocratique, je suis Armando Nguendi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Likeluka.
Nous ouvrons ce débat en faisant rapidement le tour de la table en ce qui concerne cette tuerie de masse le 5 octobre dernier, mardi dernier à Bambari, non loin de la ville de Bambari Centre. Première question à vous, comment réagissez-vous à ce nouveau drame, Madame Rachel Ngakola?
Merci Monsieur Armando, je profite de votre antenne pour présenter mes condoléances les plus attristées à mes frères et sœurs de Bambari. Et j'étais en déplacement à Dakar quand j'ai eu les nouvelles. Je suis rentré il y a deux jours et j'ai eu les nouvelles, mais c'est vraiment triste parce que c'est depuis plus de cinq ans que la Waka vit dans cette crise-là. La ville de Waka ressemble à une scène de théâtre. Pourtant, le chef de l'État avait fait une promesse. Il avait déclaré que Bambari doit être une ville sans armes. Malheureusement, nous assistons à des regains de violence. Il y a quelques semaines, au site de l'élevage, il y avait déjà eu des tueries. Sur la route de Ipi au PK10, on a tué nos facas. Et maintenant, sur la rue d'Alindao, et pas plus tard qu'il y a deux jours, à Ngakobo. Et tout ceci se déroule dans ma circonscription. Et c'est vraiment déplorable et regrettable.
Monsieur Joseph Bindunga, réaction sur ce qui s'est passé à Bambari?
Je compatis avec tous les compatriotes qui souffrent de part et d'autre en République centrafricaine. Aujourd'hui, c'est une terre de feu, une terre de misère, et que Dieu vienne en aide au peuple. Et ma réaction, mais c'est une réaction de colère, c'est une réaction de vraiment de refus du mal. Qu'est-ce qu'on veut du peuple centrafricain? 1. Le président de la République. 2. Le premier ministre. 3. Le ministre de la Défense avec la chaîne de commandement. Et 4. Les soi-disant Russes qui sont les alliés de la République centrafricaine. Au lieu de condamner, non, c'est de combattre. Aujourd'hui, le président de la République centrafricaine a déclaré la guerre. Mais où est cette guerre-là contre les gens? Et on a déclaré Bambari, ville sans armes. Comment se fait-il que des gens rôdent autour de Bambari avec des armes et agressent la population, et on ne les poursuit pas, on ne les traque pas? La population centrafricaine est dans une nasse et les terroristes peuvent faire ce qu'ils veulent d'eux. D'une part, les forces légalistes peuvent leur faire du mal. D'autre part, et la CPC. Donc, le peuple est pris en étau par tout ce monde-là.
Vous avez parlé, on ne les poursuit pas, on ne les traque pas, mais nous savons qu'à l'époque, il y avait leur base dans la ville de Bambari, mais aujourd'hui, ils ne se trouvent plus dans cette ville.
Bendy, écoutez, quand vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, où vont se retrouver les fourmis? Et par bien, tant qu'on les dégage de Bambari, mais il faut les poursuivre, les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ceux qui ne rendent pas les armes doivent se retrouver à la mort ou à l'hôpital. Et ceux qui rendent leurs armes, eh bien, à la disposition de la justice. On ne va pas donner un coup de pied dans la fourmilière et rester attendre et le peuple est là, pris en étau.
Nous écoutons M. Christian Emendota sur ce point. Votre réaction en tant qu'observateur, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Votre réaction sur ce qui s'est passé à Bambari il y a quelques jours.
Bon, en tant que Centrafricain, lorsque j'ai appris ces nouvelles, déjà pratiquement quelques minutes après l'attaque, j'étais tout simplement, comme l'a dit le député Bendunga, en colère, révolté. Parce que ce n'est pas la première tuerie et je ne pense pas que ce soit la dernière tant qu'on n'a pas encore traqué, tant qu'on n'a pas encore arrêté Ali Daras. Moi, je cite Ali Daras depuis bientôt 5 ans, 6 ans, avant que le président Touadéra soit élu. Ali Daras était déjà le problème. Il est toujours le problème. Mais vous constatez que Ali Daras, 0 étoile, maintenant il est devenu 5 étoiles avec la bénédiction des autorités centrafricaines. Lorsque l'on regarde ce qui se passe, ça révolte. Et quand vous voyez l'actualité, le 1er octobre, le préfet de la Waka avait pris un arrêté préfectoral pour décréter un couvre-feu. Ce qui signifie qu'ils avaient déjà l'information à l'issue de leur rencontre. Je crois qu'ils ont un conseil de sécurité au niveau préfectoral. Ils ont décidé de mettre en place un couvre-feu sur les différents axes. Ce couvre-feu a été instauré. Et 4 jours après, on attaque à moins de 20 km de Bambari. La question que je me suis posée quand j'ai vu ces images, quand j'ai vu ces camions calcinés, je me suis dit, mais où sont les forces de défense? Où est la MINUSCA? Parce que logiquement, je crois que certains convois de cette ampleur sont accompagnés, pour ne pas dire escortés, jusqu'à une certaine distance, afin qu'il y ait une jonction, par exemple, avec Alindao, pour que ce convoi puisse aller soit à Bangassou, à destination, en sécurité.
Mais est-ce que l'escorte de ces convois se fait tout le temps?
C'est la question qu'on se pose. Moi, c'est la question que je me suis posée dès que j'ai vu ces premières images. Est-ce qu'il y avait une escorte? Parce que quand vous voyez ces 3 camions avec le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur, il devait avoir en principe une escorte au moins sur une 30aine de kilomètres afin qu'il y ait un relais pour aller tranquillement à Lindao. Vous voyez la carte de la RCA. Et je relève en passant cette incohérence parce que après coup, j'ai écouté le gouvernement à travers le porte-parole. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le gouvernement dit que c'est l'axe Bambari-Ipi. Tout le monde sait que c'est l'axe Bambari,
oui,
Alindao.
Il y avait une erreur géographique sur cette question.
C'est pas une erreur. Je pense qu'il y a une sorte de faiblesse quelque part. On prend tout à la légère. Parce que ça, c'est peut-être un lapsus, mais c'est un lapsus qui est révélateur de la gestion de cette crise. Parce que quand on ne connaît pas l'axe, Ipi, c'est vers le nord, Alindao, c'est vers le sud. Si au niveau gouvernemental, j'ai écouté en français et en sango, au début, je me suis dit, bon, peut-être que c'était un lapsus, mais quand ça a été répété, ça n'a pas été corrigé, même dans le texte initial, c'est qu'ils n'ont aucune emprise sur la situation réelle du terrain. Voilà un peu le commentaire, le tout premier commentaire que je fais
voilà
sur
cette tragédie.
Voilà la
connaissance de la République centrafricaine, tout ce que vous avez relevé. Je reviens vers vous, M. Nduyabela. Réaction sur le drame de Bambari, où d'aucuns parlent déjà de plus d'une 30aine de décès, de morts.
C'est une réalité. Quand Frère Armando, c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume. Je vais m'avoir celle des députés de la nation qui l'ont exprimé tout à l'heure en tant que centrafricain. Parce que bon, je peux être content de ce qui s'est passé. Je ne peux que m'attrister. Je me pose la question de savoir si les centrafricains sont des damnés de la terre. Pendant que sous d'autres cieux, il y en a qui coulent paisiblement leur vie, tranquillement. Et depuis un certain nombre d'années, les centrafricains ne font que pleurer. Pleurer. Et puis on ne fait que décréter des journées de deuil. Ailleurs, je pense surtout qu'il y a des journées de deuil assez répétitives qu'on proclame. Je crois que là, le peuple centrafricain aspire à la paix. Et donc, il faudrait que les autorités du pays veillent à cela. Chaque centrafricain, la liberté d'aller et venir sur le territoire centrafricain est compromise. On ne peut pas aller quitter. On voit, ils embarquent d'ici. Nos centrafricains sont... Un centrafricain meurt pour moi qui suis centrafricain. C'est un frère. C'est quand on se retrouve à l'étranger, on s'appelle des frères. S'il y a un Centrafricain qui meurt aujourd'hui, en tout cas, bon, c'est avec beaucoup de tristesse et de consternation. Je présente vraiment mes condoléances à la suite des uns des autres aux parents, à moi-même. C'est moi hein, qui suis frappé. En tout cas, c'est indigne, c'est insupportable. Est-ce qu'on doit continuer ? Quand vous l'avez dit, vous rappelez que est-ce que c'est par rapport au dialogue politique que les gens se manifestent ? Peut-être. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on doit... C'est par la violence qu'on doit poser des actes pour aller à la négociation ou au dialogue politique républicain. Et déjà, le dialogue politique républicain, il faut être républicain pour y participer. Être républicain, c'est respecter l'article 23 de la Constitution qui dit « Tout citoyen habitant sur le territoire centrafricain doit respecter la Constitution, loi et règlement. » En posant de tels actes, est-ce que c'est respecter les lois de la République ?
Bon, maintenant, l'acte a été déjà posé. Nous allons rentrer dans le vif de ce débat pour voir qu'est-ce qu'il faut faire au moment où nous sommes pour mettre fin à ce regain de tension, à ce regain de violence ou bien à ce qui s'est passé pour ne pas parler de tuerie à tout moment. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?
Qu'on réfléchisse, il faut qu'on pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut revoir la hiérarchie militaire. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a là beaucoup de forces, on dit des forces de défense et de sécurité qui sont déployées. Normalement, il fallait faire intervenir ici la hiérarchie militaire. Ceux qui doivent assurer la sécurité des peuples centrafricains, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des professeurs à l'université, ce ne sont pas des journalistes, ce sont les hommes en armes. C'est eux, ceux qui ont trahi, qui doivent réfléchir à la stratégie qu'il faut pour assurer la sécurité, la liberté d'aller et venir du peuple centrafricain. Donc, on a les partenaires internationaux, la MINUSCA, on a les forces alliées. Avec les forces de défense intérieure, bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est à ces personnalités qu'il faudra poser la question. Comment faire ? Il doit revoir comment opérer, organiser le redéploiement des forces de défense sécurité en fonction des zones sous conflit. On sait, comme il a dit, quand on tape dedans la fourmilière, mais les fourmis, c'est pareil. Ben donc, il faut... C'est à eux. Moi, je ne suis pas militaire. Ouais, c'est à eux de développer des stratégies.
Vous avez raison, je rappelle rapidement.
Et donc,
hein,
voilà, c'est au gouvernement, le gouvernement a sous sa disposition la force. C'est le gouvernement qui a
sans autant vous couper, je rappelle que nous avons tenté en vain d'avoir quelqu'un du gouvernement sur le plateau avec nous pour débattre cette question.
Exactement.
Aussi, nous avons invité le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui, au dernier moment, ne s'est pas rendu disponible pour débattre. Madame Rachel Gakola, vous voulez réagir tout à l'heure sur la question de ce qui se passe à Bambari. En écoutant M. Ndota tout à l'heure.
C'est pas une surprise, ça n'a pas été une surprise. Il y a eu déjà plusieurs attaques. Déjà sur le site de l'élevage, dans Bambari même, il y a eu des attaques. Deux fois de suite. Il y a eu des attaques au PK10 sur la route de Ipi. Et ensuite à 18 km sur la route d'Alindaou. Mais tout ça c'est dans Bambari 1. Tout ça c'est dans Bambari 1. Le préfet a pris effectivement un arrêté pour ramener le couvre-feu à 18h. Mais il ne l'a pas fait gratuitement. C'est suite à des menaces, suite à des rumeurs, suite à des informations. Il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités, donner des moyens. Un pays sans renseignement, ce n'est pas un pays. Il faut mettre en place des services de renseignement fiables. Fiables. Les gens ne sont pas sortis comme ça. C'est une chose très préparée. Alors, si le préfet a ramené le couvre-feu à 18h, je suis sûre qu'il a fait remonter l'information au niveau de sa hiérarchie. Mais qu'a fait le gouvernement ? Il ne suffit pas de rester à Bangui entre quatre murs, décréter un, deux, deux, trois jours, ça ne suffit pas. C'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut donner des moyens à nos FACA. Il me semble qu'il y a quelques mois, dans le Ombomou, quand il y a eu invasion de l'UPC, mais ce sont nos FACA. Il n'y avait pas les allées ni la MINUSCA. Ce sont nos FACA qui ont mis en débandade ces bandits. Il faut donner des moyens adéquats à nos forces national. Quand je parle de moyens, j'entends par moyens. Déjà le moyen matériel, le moyen roulant, les moyens financiers. Je suis de Bambari, je vais à Bambari. Nos FACA ne reçoivent pas régulièrement leur PGA. Ils ont des véhicules à 500 mètres, 300 mètres, ça tombe en panne. Deux fois sans carburant. Que voulez-vous que ces enfants-là fassent ? Il faut leur donner des moyens, envoyer des militaires aguerris. Nous voyons nos autorités se promener dans Bangui avec des armadas des éléments de sécurité. Est-ce qu'il y a-t-il une menace à Bangui ? Vous voyez une personnalité avec 15-20 éléments de sécurité. Mais envoyez ces enfants sur le terrain avec des moyens adéquats. Il y a une barrière juste au PK8 sur la rue d'Alindaou. J'ai fait cette route-là. Mais vous arrivez à cette barrière, vous trouvez un auxiliaire de douane. Auxiliaire, je dis bien. Sans battre. Vous trouvez deux militaires avec les anciennes armes là. Deux. Mais qu'est-ce que ceux-là peuvent faire ?
Mais il y a eu des déploiements sur le terrain ces derniers temps des forces armées centrafricaines, beaucoup plus au centre à Bambari.
Mais il ne suffit pas de rester au centre. Il faut leur donner des moyens.
Je parle de la région du centre.
Les gens sont basés à Bambari. C'est pour ça que je parlais de moyens. Il faut leur donner des moyens pour leur permettre de faire des patrouilles régulières. Des patrouilles régulières. Et associer aussi la MINUSCA. Bon, on nous a chanté tous les jours ici que non, il y a maintenant les Russes à Bambari. Tout est calme, tout est calme. Dites-moi, quel est le chef rebelle arrêté par les Russes jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ça fait déjà 2 ans. Quel est le chef de rebelle arrêté ou tué par les Russes? Ils passent leur temps à arrêter des innocents. Et c'est devenu même un fonds de commerce. Quand ils savent que tel commerçant a de l'argent, bon, on l'arrête et puis il faut cotiser 5 millions, 8 millions, on leur remet pour le libérer.
Ah bon?
C'est ça? Mais oui, c'est ce qui se passe à Bambari. C'est parce qu'on a muselé les gens. Essayer d'envoyer des enquêtes, des journalistes investigateurs poser la question à la population pour savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est devenu un fonds de commerce. Alors dites-moi, les Russes, ok, d'accord, je suis d'accord. Quand on libère un terrain, les malfrats, ils sortent, ils posent leur forfait, ils repartent. 2 jours après, ils viennent, ils disent qu'ils ont libéré la ville. C'est pas ça, libérer la ville. Qui ils ont affronté jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qui ils ont affronté?
Et donc maintenant, selon vous, c'est toujours réarmer les forces armées centrafricaines, compter sur les locaux, c'est ça?
Oui, pour moi, c'est ça, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre avec les étrangers. Donner d'abord des moyens à nos forces nationales, appuyer maintenant des autres. On ne peut pas tout laisser et dire que bon, les Russes sont là, les Alliés sont là, on se croise les bras, on les laisse faire, non.
Monsieur Joseph Bindunga, comment faire face aujourd'hui à ce nouveau mode opératoire des rebelles qui s'attaquent à la population civile?
Pas
seulement dans la région du centre, mais partout ailleurs.
Je vous prie, monsieur Armando, de rectifier votre question, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que les gens s'attaquent aux civils, mais c'est dès le début, quand la SELECA a démarré le 12 décembre 2010, le 10 décembre 2012, à Ndélé, que les populations civiles ont été livrées en pâture.
Quand je parle d'aujourd'hui, je fais allusion à la situation
oui,
récente.
Oui, non, mais c'est quelque chose qui est devenu chronique. Les Latins disent « si vis pacem, para bellum ». Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et la meilleure défense en matière militaire, c'est l'attaque. Moi, Bindunga, je suis député de Bimbo 3, suis membre de la commission Défense et sécurité. Et j'ai honte de notre armée. J'ai honte de ce que font les autorités politiques. Je vous lis seulement la Constitution. Le serment du président de la République. Moi, Faustin Archange Touadéra, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, de sauvegarder l'intégrité du territoire.
Est-ce que vous pouvez paraphraser rapidement?
Il faut qu'on comprenne le fond. C'est que M. Faustin Archange Touadéra, dépositaire des pouvoirs légitimes de l'État centrafricain, doit actionner tous les moyens pour pouvoir rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire. Il a bien dit quand il avait candidaté en 2015. Lorsqu'il sera élu, il ne laissera pas un centimètre carré de la République centrafricaine sous le contrôle des rebelles. Donc, sa promesse, elle est bonne. Et dernièrement, quand le 13 décembre 2020, la CPC a attaqué Bangui, il a activé ses moyens. Mais pourquoi ne pas les activer avant que d'attendre jusqu'à ce que la CPC menace son pouvoir pour qu'il puisse réagir.
Mais certains proches du pouvoir parlent de ce que certains membres de l'opposition démocratique dénoncent ce que font les Russes, parce qu'ils attaquent pour contrecarrer les actions des rebelles. Après, on va crier pour dire oui, ce sont les Russes qui sont en train de causer des bavures, et c'est pour cette raison qu'il y a eu un peu de relâchement.
Monsieur Armando Yangenzi, ce que nous avons dénoncé, précisément le MDRC, d'abord on a dénoncé la CPC, on a dénoncé les FACA, on a dénoncé les Russes. Quand on dénonce quelque chose et lorsqu'on contrôle et que la chose est vraie, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est prendre les mesures pour pouvoir circonscrire le mal. Si nous dénonçons, si nous ne le faisons pas, si nous fermons les yeux, mais nous ne rendons pas service à l'État, à ceux qui gouvernent le pays. Mais le fait de dénoncer ne veut pas dire que l'opposition est responsable de ce qui arrive. Et ce que j'ai dénoncé d'abord, quelle opposition? C'est Joseph Bindunga qui a dénoncé cela. On a débattu de cela, même avec le professeur Ndouya Bella. qui défendait, mais aujourd'hui la réalité est venue et vous avez vu comment lui, tellement chagriné, n'a pas la voix pour répondre parce que ce qu'il a cru défendre comme si c'était la vérité, le mensonge, s'est révélé vérité aujourd'hui.
Vous pensez à sa place, hein?
Non, je ne pense pas à ça. Mais est-ce que vous avez entendu la voix du professeur Ndouya Bella quand il a déploré ce qui arrive aujourd'hui et il est allé jusque dire que c'est lui-même qui est victime.
Vous avez épuisé votre temps, monsieur Benouga.
Non. Ce sont nous les Centrafricains qui sommes victimes et il l'a reconnu.
Oui, il a reconnu. Je vous retire la parole parce que vous avez épuisé votre temps. Vous allez compléter après. Oui.
Merci.
Monsieur Ndouya Bella, monsieur Benouga parle de ce que vous n'avez plus de voix pour parler de ce qui se passe sur le terrain.
Non, mais c'est normal. C'est une réaction humaine.
Oui, c'est ça. Il va réagir.
Je me moque de lui.
Non, c'est pas une moquerie. Ce n'est pas une moquerie. Bon, il va réagir.
On est en deux, la République, voilà. On est en deux. Est-ce qu'on doit se rentrer dedans, etc. Moi, c'est ma posture. Un débat démocratique en dehors de cette circonstance, on peut le mener, mais ça, quoi, l'occasion ne s'y prête pas. C'est pour ça que moi, en deux, je suis frappé, puis voilà, je ne peux qu'exprimer, être attristé. C'est vrai, je relève. Ce que, à travers ce débat, ce qu'on doit mettre en exergue, c'est quoi, les failles. J'ai vu la réaction du député de Bambari, il y a un problème de renseignement. Il faudrait que ça, effectivement, ça soit travaillé assez profondément par le gouvernement. Vous voyez, il y a le ministère de l'administration du territoire avec le préfet. Est-ce qu'il y a coordination des informations pour parer au plus urgent? Si le service, et on l'a déploré quand j'étais à la primature, ce qu'on a déploré, cela. Le système de renseignement ne fonctionne pas très bien. Sérieusement, il faut remonter, même si on dit le chef de l'État a pris des engagements, il a juré, assuré, est-ce qu'il doit le faire tout seul? C'est avec une équipe. S'il y a le service de renseignement qui donne, et lui, il donne le top. Il dit voilà, telle mesure à prendre. Mais si on ne remonte pas les informations au chef de l'État, comment il va faire, M. Benoua? C'est ça le problème. Et donc là, le système de renseignement doit être de telle manière qu'il y ait une fluidité et rapidement on coordonne. Et on pourrait même parler, comme a dit madame la députée Rachel, si les services de renseignement fonctionnaient correctement, on néglige. Vous avez reproché tout à l'heure, nous on est en train de débattre. Les membres du gouvernement sont là, ils sont à côté, ils ne sont pas loin. Vous avez déploré, ils auraient pu être là pour. Ça, c'est pas moi. Même ils sont là, en séminaire quoi, gouvernemental, ils sont à côté de Nekeluga. Par rapport à la situation de leurs centrafricains, ils devaient être là pour répondre et donner des explications. Donc, le système de renseignement ne fonctionne pas très bien de manière à permettre au chef de l'État de prendre des décisions qui s'imposent. Et deuxièmement, vous voyez, il y a le refroidissement, vous avez parlé des Russes, oui. Mais ils ont fait. Mais après, bon, on les critique. Ce sont des êtres humains.
Là, je vais réagir par rapport
donc,
à
on
ça.
Dit, et puis il y a des rapports. Et puis il y a des lobbying au niveau international. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils disent, bon, il faudrait qu'ils prennent un peu de recul, parce que là...
Mais s'ils prennent un peu de recul, est-ce que c'est du chantage à ce niveau vis-à-vis du gouvernement?
Non, pas de chantage, je pense que bon, c'est une réaction humaine. On dit voilà, ils veulent, ils sont venus à la rescousse, aux côtés du peuple centrafricain. Encore, il y a des manipulations, on dit non. Bon, déjà, c'est des mercenaires, des Wagner, etc., autre chose. Alors que moi, je l'ai dit, comme tout à l'heure, le chef de l'État peut prendre n'importe quel type de mesure face à une situation de crise. Et là, il n'y a pas de liste énumérée dans la Constitution. L'intervention sollicitée, ben, chef de l'État me dit, voilà, je sollicite tel partenaire pour venir m'aider à passer. Voilà. Juridiquement, cette démarche n'est même pas contestable. Et donc, maintenant, on les a fait venir, au lieu, peut-être qu'on les encourage. Bon, c'est vrai, il y a des dérapages, comme Benoît dit. S'il y a des dérapages, et oui, on dénonce, on critique. Oui, c'est à la hiérarchie de prendre des dispositions pour corriger. S'il y a des dérapages, on dit, il y en a qui vont escorquer, par exemple, bon, ils tuent des bêtes, ou bien des escabris, ils vont égorger, etc. Bon, c'est à la hiérarchie de donner des instructions, parce qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. De donner des instructions, de dire voilà, vous êtes là pour telle mission, il faudra aller dans ce sens. L'objectif, c'est de libérer, d'apaiser et puis de créer une condition de paix en République centrafricaine. Votre travail se situe à ce niveau. Mais aller voler, extorquer, etc., bon, moi je dis, j'imagine peut-être, hein, c'est des Européens. Quand on parle de Russie, je ne sais pas, est-ce que les Européens vont descendre plus bas pour aller ramasser nos coqs et poulets, etc. Bon, ça, je n'en sais rien, moi je suppose. Ils viennent de l'Europe. Alors quand on est sur les Européens,
vous avez déjà bien parlé, il a vu reculer, ça me fait peur. Hein.
Voilà un peu la
Monsieur Tressan Mendota, comment expliquer, selon vous, le regain de violence ces derniers jours dans la Waka et certaines localités du pays?
Bon, en fait, c'est une répétition.
Oui, c'est une
on prend la date du 10 décembre 2012. Tout a commencé lorsqu'ils ont décidé de descendre à Bangui. Très facilement d'ailleurs, à l'époque, quand on parle de problème, c'est pas un problème de renseignement, les renseignements sont là, mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout simple, il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans les services de renseignement dans ce pays, on sait ce que les gens font. Moi j'ai été confronté au service de renseignement à l'époque de Bozizé, le BND, je me suis retrouvé là-bas parce qu'on avait fait une fiche contre moi, mais je me suis rendu compte que les gens, les futilités, ils sont les premiers à prendre, mais les vraies informations... Et c'est là où le chef d'État doit, ce que le député Benouga dit, est correct.
Le chef d'État, il a été élu pour protéger la population. Il a toutes ces informations. Mais il faut dès qu'ils agissent. Vous voyez, il y a ce langage à Batacordon, à Ouin. Moi, j'ai apprécié ce slogan-là. Mais c'est où maintenant ? Obo a été défendu par des militaires.
Centrafricains.
Centrafricains. Moi, je connais un lieutenant. Je connais même le préfet, qui est un militaire. Mais pourquoi, à Bambari, on n'envoie pas ces militaires ? Il y a des militaires, mais il y a aussi le découragement. Vous voyez, on distribue des étoiles actuellement à Bangui. Mais ceux qui sont sur le terrain, moi, j'ai la famille. Moi, j'ai ma fille qui est militaire. J'ai des cousins qui sont militaires. Il y en a certains qui sont à Bambari. Ils n'ont pas mangé. On a mobilisé des milliards, je dis bien des milliards, espèces sonnantes ou trébuchantes, mais également du matériel à manger, des sardines, de l'eau, ainsi de suite. C'est parti où ? Parce que ceux qui sont sur le terrain disent qu'ils n'ont rien reçu.
À qui la faute ?
Ben, c'est la faute au gouvernement, à l'autorité principale.
Le président de la République.
Le président de la République. Parce que quand on détourne quelque chose qui est destiné à des hommes qui se sacrifient pour la nation et que ça n'aboutit pas, mais attends, on dégage les premiers responsables. Mais on ne sanctionne pas, mais on donne des grades au fur et à mesure. Et moi, la proposition que je faisais, elle est militaire. Il faut les combattre. Il ne faut pas seulement condamner. Ali Daras, on sait ce qu'il fait depuis. Et d'ailleurs, il y a une complicité des Russes derrière. Là, il ne faut pas se voiler la face. Quand vous faites la rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis 2012 jusqu'en 2021, on sait les complicités qu'il y a entre Ali Daras, l'UPC, depuis 2013-2014, puisque Ali Daras était avant dans le FPR de Babalade, qui était sur le terrain. Vous voyez cette coïncidence bizarre ? Le 5 octobre, Babalade est reçu par le président Déby, fils. Le 5 octobre, à Bangui, l'UPC de Ali Daras, qui est un ancien du FPR, attaque. C'est des messages politiques. Je pense qu'au-delà de la solution politique...
C'est des messages politiques codés, mais il faut aussi, de l'autre côté, les gens décodent.
Moi, je dis, par exemple, politiquement, première des choses, moi, je suis le président de la République. Il y a un certain Hassan Bouba qui est ministre de l'élevage. On doit le démettre parce que c'est le numéro 2 politique de Ali Daras et il est dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone ? Les renseignements sont au courant, non ? Il est toujours là, Hassan Bouba. Moi, je mène une campagne sur les réseaux sociaux pour qu'on demande des comptes à ce ministre. Pas normal que quelqu'un qu'on voit en treillis à côté de Ali Daras, qui est actuellement en train de tuer des centrafricains, et il est là dans le centre du pouvoir même. Il siège en conseil des ministres. Il écoute tout ce qui se passe. Il n'est pas centrafricain, il faut le dire. Il y a des rapports des Nations Unies, des rapports centrafricains qui sont là, qui montrent que l'actuel ministre Hassan Bouba est le neveu de Babalade, Babalade qui est tchadien.
Monsieur Ndota, une dernière question avant qu'on écoute le témoignage de l'une des victimes qui a pu échapper à cette crise. Vous voulez parler de laxisme à ce nouveau ?
Laxisme, laisser aller, tous les termes qu'on peut utiliser. Mais je pense que
même.
Médiocrité, incompétence, ce sont des termes qu'on peut utiliser. Je pense qu'il faut de temps en temps être fort, taper du poing sur la table. Et je pense que démettre un ministre qui est complice d'assassinat, on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h.
On écoute l'une des victimes de cette fusillade du P4-18, non loin de Bambari, qui a pu échapper à cette situation. On l'écoute.
Les rebelles, un groupe armé, c'est des CPC qui nous ont arrêtés, puis ils nous ont fuyés. Après, ils ont brûlé les camions et brûlé deux motos. Et ensuite, ils nous ont tiré dessus à bout portant. Ils nous ont attachés par terre, ligotés, et ils ont tiré sur nous à bout portant. Avec des morts, des enfants, des femmes. Moi-même, j'ai reçu le balle sur mon épaule, mon bras gauche. Et Dieu merci, je suis encore à vie. Il y en a d'autres qui ont reçu le balle dans la tête, ils sont morts sur place. Plus de dizaines de morts, quoi. Sur la route accès à Linda, au niveau de PK20.
Les autorités de Bambari parlent d'une plus d'une dizaine de morts. Or, les victimes et l'hôpital parlent d'une trentaine de morts. Qu'en dites-vous, monsieur Joseph Bindougaï ? Donc, votre réaction sur ce témoignage ? Calmez-vous et
écoutez. Ouais,
allez, et du courage et puis.
Ce qui m'a choqué, c'est que le lendemain de ces crimes-là, le président de la République est allé à l'Assemblée pour valider quelque chose. En même temps que Bambari était attaqué, il y avait Bouka et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu le président de la République. Je pense que ce que vient de dire ce compatriote qui a souffert dans son âme et dans sa chair et que j'épouse sa souffrance, c'est inadmissible lorsqu'on a un président de la République élu. Nous avons une armée qui n'a pas les mains libres, qui n'a pas les moyens pour pouvoir faire son travail parce que comment voulez-vous que des gens viennent jusqu'à 12 km de Bambari, faire des agressions, agresser des gens. Ça, ce n'est pas une opération qui dure une minute. Et c'est facile pour que les forces qui sont basées à Bambari puissent intervenir. Mais les gens n'ont pas intervenu. Ils ont abandonné le peuple centrafricain et le peuple centrafricain aujourd'hui n'a pas d'armée. Donc reconnaissons que aujourd'hui le président Fossé Akang Touadéra est dépassé et
le président a pris un décret un 2 de 3 jours et il y a des actions en cours. On ne sait pas.
Au lieu de décréter des deuils, moi je conseille plutôt au président de la République de combattre ces terroristes, de combattre ces bandits, de mettre tous les moyens à la disposition de l'armée. Et je suis prêt à prendre les armes pour aller me battre parce que la population civile doit soutenir son armée pour que l'armée centrafricaine.
Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. On attend ce qui va se faire par le gouvernement. Je reviens vers vous, Madame Rachel Gakola. Le témoignage, ça a duré, hein, le drame ou bien la scène que vous avez écoutée de la part de cette victime, ça a pris un peu du temps.
Par rapport aux 3 jours de deuil décrétés par le président de la République, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Depuis qu'il y a des tueries en République centrafricaine, en masse même, le président ne s'est jamais déplacé pour aller compatir avec les familles des victimes, pour compatir avec les populations locales. C'est très important parce que partout ailleurs, même si les chefs d'État sont en mission, ils écourtent leur séjour, ils reviennent, ils se rendent sur les lieux. Il n'a jamais fait ce déplacement, ni le Premier ministre, rien du tout. Ils sont là pour aller inaugurer je ne sais pas trop quoi, pour aller à la réception dans les ambassades, pour aller réceptionner 2 ou 3 ordinateurs. Non, il faut se rendre sur le terrain, compatir avec les populations.
Est-ce que c'est la meilleure solution selon vous? Même d'ici, il peut prendre des décisions avec
Il ne suffit pas de rester entre 4 murs et prendre des décisions. C'est la présence physique, même vous qui êtes là. Si aujourd'hui vous avez un malheur et que votre voisin ne vient pas vous rendre visite, est-ce que vous allez apprécier? Non, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas des décrets, des arrêtés, des discours. D'abord, même pour les messages à la radio, il ne réagit jamais, pratiquement jamais. Il ne réagit pas. Les 3 jours de
deuil. Il réagit à travers les membres du gouvernement.
Je suis désolée, c'est lui que les gens ont voté parce qu'il a dit qu'on l'a voté massivement. Et ce sont ses électeurs. Il doit se déplacer parce que ça se fait partout ailleurs. Je ne prends pas l'exemple de l'Europe, je prends même l'exemple des pays africains à côté de nous. C'est comme ça que ça se fait. Je veux rebondir un peu sur ce qu'a dit le professeur
Ndjouya Bella.
Il a dit que les Russes sont découragés parce qu'on les accuse de tout. Non, c'est notre pays, il s'agit de la nation. Il faut se dire des vérités. Les Russes ont commis aussi des exactions. Pas qu'on a appris, on ne sait pas si c'est vrai. Non, ne nous voilons pas la face. Je prends l'exemple de Bombari que je maîtrise. Les Russes sont allés là-bas. Derrière moi, il y a 1 mois et demi, je suis allée. Et j'étais derrière le convoi de 20 camions avec des containers de Russes conduits par les Russes directement sur Ndashima. Alors, la guerre, c'est Ndashima là-bas. Et que contenaient ces containers?
Il y a aussi des gens là-bas, Ndashima.
Non, mais...
Il y a beaucoup plus d'or à Ndashima.
Il y a beaucoup plus d'or.
Non, on ne voit pas de l'or pour l'instant, mais on voit la population d'abord.
Non, mais
la menace n'est pas à Ndashima.
Non, la menace n'est pas à Ndashima.
Elle est à Bambari.
Mais voilà. Aussi, la menace, elle est partout.
Mais quand contenait ces conteneurs-là. Non, on ne critique pas les Russes pour les critiquer. Ils sont venus nous prêter main forte. Vous voyez, au temps du feu président Patassé, il a fait venir les Bayamoulengue pour justement arrêter cette crise. Mais de par leur comportement, comment ça a fini? On les a fait venir, d'accord, mais qui se comportent en respectant les choses. Ils se comportent comme les bandits. Une force normale ne peut pas se comporter comme les rebelles, les mercenaires, les terroristes, les bandits. Non, il n'y a pas de comparaison parce que une fois, j'étais allé à Bombari pendant la fête de Ramadan, mais le préfet, quand il a pris la parole, il a félicité les gens, il les a remerciés pour leur fête, tout et tout. Mais il a dérapé un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, vous dites que nos Fakao, nos Russes violent les femmes ici, mais quand Ali Dara, ça se comportait comme ça, là, qui a parlé? Maintenant, vous osez pas. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à faire. Un bandit reste un bandit. Une force normale reste une force normale. Ce n'est pas parce que les bandits se sont comportés comme tels que nous, les forces loyalistes aussi, on doit suivre le même chemin.
Vous avez terminé votre temps. Je reviens vers M. Ndjouya Bella. Certains caciques du pouvoir estiment que les agitations de groupes armés, notamment la CPC de François Bozizé, sont de nature à mettre la pression sur le gouvernement en vue de leur participation au dialogue. C'est ce que j'ai déjà posé, mais je réformule pour vous. Qu'en dites-vous sur ce point?
Oui, ça, il faut regarder. Moi, je l'ai apprécié de cette manière-là. C'est une manière d'exercer une pression sur le pouvoir exécutif en vue de leur participation au dialogue républicain. Et là, il faudra peut-être dissiper la confusion dans l'esprit des uns et des autres. Ce qui est en préparation est un dialogue républicain. Bon, je suis un peu désolé et puis découragé. Je vois que même certains compatriotes centrafricains qui encouragent et qui disent « Non, il faut un dialogue politique inclusif. » Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusivité? C'est avec tout le monde. Or, de mon point de vue et selon ma compréhension, il y a au moins trois initiatives politiques à ne pas confondre. Certains compatriotes, il y a les terroristes, les groupes rigolent, ils ont pris les armes. Dans sa politique de main tendue, le chef de l'État a organisé une négociation de Khartoum à l'issue de laquelle il y a eu l'accord de Bangui, 2019. Ça, c'est une première initiative avec ceux qui ont pris les armes. Voilà, il faut, on arrête. Deuxième situation qui s'est posée, et c'est là où je dis qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Deuxième situation, lorsqu'il y a eu l'avènement, la survenance du coronavirus, certains députés de la nation, à l'époque, avaient initié un projet de révision de la Constitution en vue de prorogation du mandat des parlementaires et du président de la République. Dans l'avis de la Cour constitutionnelle a dit « Si on n'arrivait pas à organiser les élections dans le délai constitutionnel, la Cour constitutionnelle a préconisé, a proposé au chef de l'État d'organiser une concertation nationale avec les toutes les forces vives de la nation. Sur cette question, par rapport, c'est dans le cadre du processus électoral. Et maintenant, voyez-vous, les élections se sont tenues dans de bonnes conditions. On a eu un président de la République, l'Assemblée nationale s'est installée. Est-ce qu'il y a nécessité d'organiser un débat? On se répète tout le temps et on ne se comprend pas. Et là, en tant que chef et père de la nation, le chef de l'État a accepté d'organiser ce qu'ils appellent dialogue politique inclusif, et il a dit un dialogue républicain. Il a organisé des concertations, fait venir tout le monde, voilà, des forces. Certains ont refusé de se présenter pour définir le canevas et c'est ce qui est en préparation. Un dialogue républicain, je l'ai dit tout à l'heure, avec ceux qui n'ont pas, parce qu'il faut distinguer ceux qui ont pris les armes.
Ça veut dire qu'un dialogue républicain, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont dans les maquis, voilà, ne doivent pas prendre part.
Ne doivent pas prendre part, ça c'est un dialogue c'est entre clair, hommes politiques, voyez, voilà, les partis politiques et le chef de l'État et les forces vives de la nation.
Oui, moi, c'est ce qu'on avait expliqué.
C'est pour ça, donc le dialogue républicain, eux là ils doivent participer parce qu'eux ils ont déjà eu leur rôle avec un accord à la clé. Mais ça c'est entre les républicains, ceux qui n'ont pas pris les armes, de ma compréhension, c'est cela. Ceux qui n'ont pas présent, c'est parti politique légalement constitué.
Monsieur Bendonga, vous voulez réagir? Voilà. Je vous donne quelques secondes avant de donner la parole à Monsieur Ndouta Kishou.
Monsieur Ndouya Bel a dit que la Cour constitutionnelle a dit que si les élections ne se tenaient pas, qu'il fallait. Non, la Cour constitutionnelle a demandé au président de la République, avant d'aller aux élections, elle souhaite qu'il y ait concertation afin que les esprits soient apaisés. Pour que attendez d'abord, monsieur Ndouya Bella.
Allez-y.
Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé.
Écoutez.
Je suis attristé,
écoutez. Donc voilà, ce que la Cour constitutionnelle a demandé, c'est comme un arbitre. C'est un arbitre qui a demandé aux joueurs avant d'aller jouer. Rencontrez-vous afin que les élections soient apaisées. Mais ce n'est pas pour dire que si les élections rataient et après, on peut organiser le dialogue. Et le dialogue, quel dialogue républicain? Qu'est-ce que ça veut dire le dialogue républicain? Aujourd'hui, Touadéra a été élu sur un programme. Si dialogue devait y avoir, c'est entre Bozizé, le Seigneur, et Touadéra, son valet. C'est à cause de ces deux hommes-là que nous vivons cette situation.
Donc ça veut dire que ce dialogue républicain en préparation, vous allez prendre
ça ou pas? Ce dialogue n'a pas de sens et le MDREC n'y participera pas.
Christian Emendota, sur la question du dialogue républicain, parce qu'il y a des questions qui nous parviennent, hein, il va falloir qu'on organise rapidement le dialogue selon l'esprit des Centrafricains pour qu'on ait la paix rapidement. Est-ce vrai?
Moi, en tant que citoyen, j'avais déjà souhaité qu'il y ait ce dialogue avant les attaques du 13 janvier, lorsque la CPC a encerclé Bangui. J'étais parmi ceux sur les réseaux sociaux, dans l'opinion, qui prônait ce dialogue républicain. Personnellement.
Républicain, comme a expliqué monsieur.
Personnellement.
C'est ça?
Ceux qui ont pris des armes ne doivent pas venir dialoguer. On a dialogué avec eux depuis plusieurs années. Ils sont partis danser à Khartoum et ils ont continué à tuer. On ne peut pas continuer perpétuellement à discuter avec des gens qui ont des armes. Ça veut dire qu'il faudrait que Christian Ndouta prenne une arme, une AK, fasse une rafale pour être écouté? Non. C'est ça le républicain. Le républicain ne prend pas une arme. Moi, je suis un républicain, je ne prendrai jamais une arme. Donc ce dialogue, je pense qu'il doit avoir lieu. Et il faudrait qu'on soit clair entre nous, les centrafricains. Ceux qui ont pris des armes, on doit régler leurs problèmes avec des armes.
Mais ça perdure avec cette question. Nous assistons à ce moment-là où les centrafricains, à l'intérieur du pays, peinent à circuler librement.
Ils peinent à circuler parce qu'on ne prend pas nos réponses. Quand je dis « on »,
la République centrafricaine, le président de la République, le gouvernement, ne prennent pas leurs responsabilités pour assurer cette sécurité-là. On le dit, on le répète, nous avons des hommes dans ce pays. Quand je parle d'hommes, des forces armées centrafricaines dans ce pays, des forces de défense et de sécurité dans ce pays. Beaucoup sont bien sûr quand on est à Bangui, mais si on leur donne les moyens, et on répète toujours, c'est une question de moyens et une question de confiance aussi. Parfois, nous-mêmes, on ne fait pas confiance à ces forces de défense, à ces FACA, on parle toujours de FACA. Et l'exemple de Obo, je le répéterai toujours, que ce soit Obo, que ce soit Bangassou, nous avons des FACA qui sont sur place, mais qui n'ont pas les moyens, à qui on ne fait pas confiance. On fait confiance aux Russes, entre guillemets, on fait confiance aux forces rwandaises. Et vous voyez, par exemple, là, il y a une différence entre le comportement, on parle tout à l'heure de comportement d'une vraie armée. Vous voyez comment se comportent les Rwandais qui sont sur le terrain et comment se comportent, entre guillemets, les Russes et comment se comportent également les forces armées centrafricaines. Parce que les témoignages que nous avons, par exemple, de Bambari, nous avons des FACA qui sont sur place, mais qui ne commettent pas d'exactions en tant que telles, comme on voit chez nos alliés russes. Donc il y a un problème, je pense, de confiance. Le jour où on donnera confiance aux forces armées centrafricaines pour combattre les Ali Daras, la solution sera trouvée.
Oui, quelques secondes. Je vous donne 1 minute 30, Madame Rachel Ngakula, députée de Bambari 1, sur la question du dialogue. Les Centrafricains, d'aucuns, hein, pas tout le monde, estiment que ce dialogue, il faut le faire. Non, il ne faut pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire de cela?
Déjà, comptons-nous par dialogue. On ne dialogue pas avec les amis. On dialogue avec les ennemis, avec les adversaires, les protagonistes. Parce que si on dialogue avec les amis, ça, on appelle ça une causerie. Ça, c'est une causerie, ce n'est plus un dialogue. D'accord, on ne veut pas de ceux qui ont les armes. Qui commet les crimes à l'intérieur du pays? Si nous, on se réunit ici à Bangui, entre nous, c'est-à-dire le pouvoir, les partis politiques, les forces vives de la nation, ainsi de suite. Mais ça va résoudre quel problème par rapport à la crise? Parce que c'est ceux qui ont pris des armes qui doivent venir s'excuser. Parce que je crois que les gens confondent le dialogue et l'impunité. Non, l'impunité, on ne doit pas négocier. Ils doivent venir s'expliquer. Et sur le champ, il y aura des recommandations.
Pour aller en prison ou aller en justice. Hein.
Mais bien sûr, la justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Et puis, il y a le dernier R du DDR.
Le rapatriement.
Parce que les gens disent, non, c'est des étrangers. Ok, d'accord. Mais quand ils partaient à Khartoum, là, c'était pas avec ces étrangers-là. Quand ça nous arrange, on discute avec, quand ça nous arrange, non, c'est des étrangers. Quand on les nomme dans les différents postes de responsabilité, à la présidence, à la primature, un peu partout, c'est pas des étrangers. Mais c'est eux qui ont collaboré d'abord avec. Et qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Il faudrait que les gens viennent s'expliquer. Et la population aussi a son mot à dire à ces gens-là.
Je vous invite
Donc, par conséquent, moi, je suis pour le dialogue inclusif.
Oui, avant d'écouter les questions de nos auditeurs, je vous invite à suivre la réaction de quelques habitants de Bambari qui s'indignent de cette attaque d'hommes qui a coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes.
En tout cas, trop, c'est trop. Plusieurs reprises, nos familles sont tuées, les mamans sont violées par les groupes armés. Est-ce que la MINUSCA qui est à Bambari, est-ce qu'il travaille vraiment dans le mandat qu'on les a assis?
Ça me gêne beaucoup parce que nous sommes des Centrafricaines. Si ça continue comme ça, là, on va faire quoi avec notre pays? Il faut que le gouvernement regarde sur ça, à faire l'effort pour décompter cette situation.
Moi, en tout cas, je ne peux pas continuer à vivre dans un pays avec des situations pareilles. Le gouvernement doit réagir. S'il s'agit de sanctionner, il faut sanctionner. On ne peut pas continuer à perdre nos chers compatriotes centrafricains comme ça.
À entendre parler de ça, ça fait vraiment pitié et ça va droit au cœur. Alors, en tant que centrafricaine, je veux que la loi soit faite. Je ne veux pas que toutes ces choses-là continuent comme ça.
Il faut que la règle de droit s'applique. Il faut que ces présumés rebelles soient traqués devant la justice.
Voilà, c'est là la réaction ou les réactions des habitants de Bambari. On va résumer les questions de nos auditeurs qui réagissent à cette tuerie de masse du mardi dernier. Première réaction anonyme. Depuis des années, les autorités ne font qu'ouvrir des enquêtes en enquête afin de poursuivre les auteurs en justice. Depuis la tuerie de masse d'Alindao, combien a-t-on déjà arrêté? Herbert Bamina aussi réagit. Je pense que ce qui nous arrive, nous, population civile, c'est de responsabilité du gouvernement. Pourquoi ils refusent de dialoguer avec les groupes armés? La RCA ne se limite pas qu'à Bangui. Dialogue n'est pas synonyme de l'impunité. Sexiste Kosse Kese est un étudiant. Il fait remarquer que les groupes armés connaissent très bien la faiblesse des forces de défense et de sécurité et leurs alliés lorsqu'ils font semblant d'être gentils dit de ne plus attaquer la population, les autorités pensent qu'ils sont devenus sérieux. Il faut garder toujours la vigilance. Gonzila Yezo, pour lui, il parle. Pourquoi ces véhicules n'ont pas été escortés par la MINUSCA? Pourquoi tous les officiers centrafricains, les généraux, restent toujours à Bangui face à la gravité des faits? Et il souhaite que le dialogue républicain soit reporté. Fiacre Gogamanga, lui pense que le gouvernement doit mettre en place un système de renseignement efficace afin d'arrêter ce qu'il qualifie du désordre généralisé. Il termine en disant que les FACA ne sont pas dépassés, mais c'est plutôt le top politique qui n'est pas encore donné. Voilà, ce sont les réactions sur WhatsApp et vous continuez à réagir sur WhatsApp. Monsieur Joseph Bindunga, sur ce que vous avez écouté, la réaction des Centrafricains, tout et tout, de part et d'autre, voilà, vous aussi vous voulez réagir sur leurs propos.
Oui, mais leur réaction est légitime. C'est une réaction de frustration. Je vais loin, parce que eux ils contournent, mais moi je dis, c'est Monsieur Faustin Archange Touadéra, avec son gouvernement, qui ne sont pas à la hauteur de la très haute et noble fonction de président de la République. Parce que si vous lisez le serment du président de la République, ce serment-là dit tout. Lorsqu'un chef de famille ne s'assume pas, il va accuser les voisins, il va accuser les bandits qui viennent casser sa maison. Il doit prendre les dispositions. Et ces dispositions-là, nous avons une armée. Les Centrafricains sont capables de régler la crise centrafricaine. Là, les forces armées centrafricaines sont capables de le faire entre 6 mois, de 6 mois à 1 an. J'essayais un peu de prendre du recul, mais depuis que j'ai fait partie de la commission sécurité et défense,
vous avez compris que
j'ai travaillé avec ces militaires, on a fait 3 jours de retraite, j'ai vu qu'il y a des hommes
capables.
Et des hommes très bien formés et des hommes capables, des hommes disciplinés, et le dernier constat que j'ai fait, le respect de l'institution politique. Je leur ai tendu quelques pièges avec des questions. J'ai essayé de leur faire glisser des peaux de banane. J'ai vu l'esprit républicain. Et le malheur, c'est qu'ils font leur travail, ils remontent les renseignements, mais la décision politique ne tombe pas. Donc, acculer les services de renseignement, je dis non, mais c'est la décision politique qui ne tombe pas.
Monsieur Ndota, vous avez vu tout ce qu'on a fait, le tour des Centrafricains de l'extérieur d'ici, qui ont exprimé leurs besoins, qui ont exprimé leurs difficultés par rapport à leurs chagrins par rapport à cette situation. Rapidement, je vous donne une minute.
Je ne vais pas répéter ce que le député Bendunga a dit. Les Centrafricains peuvent régler les problèmes entre eux. On le dit depuis toujours qu'on peut régler les problèmes entre nous. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau militaire, que ce soit par exemple au niveau même de l'administration, on peut le faire. Mais tant qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on ne réussira jamais. Vous voyez, on contourne. Moi, quand j'écoute le gouvernement, on parle de CPC, avec des erreurs géographiques et tout. Mais quand j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale, Ansango, quand il a utilisé le terme terroriste, je dis c'est ça. Il faut qu'on dise le chat là, c'est le chat. Et le terroriste en chef s'appelle Ali Daras. Il est sur le territoire centrafricain. Il se balade même. Il va au Soudan, il va au Tchad, ainsi de suite. On le sait.
Est-ce que terroriste,
on le sait.
Leurs actes...
C'est les actes qu'ils posent. C'est les actes qu'ils posent. Ce qu'ils ont fait le 5 octobre, c'est du terrorisme pur.
Ce n'est plus la rébellion pour venir.
Non, c'est du terrorisme.
On tue des civils. Ce n'est même pas des tueries, c'est des exécutions. Parce que j'ai vu les photos... C'est pas des rafales comme ça. Non, ils sont venus. On a étalé les gens et on a mis une balle dans la tête de chaque sang. Pas des militaires, c'est des civils, des enfants même, des femmes. C'est du terrorisme. Moi, le président de la République, immédiatement, je déclenche une, comment on dit là, en Europe, une brigade antiterroriste, un ratissage. On met les hélicoptères. Il y a des hélicoptères qui sont là actuellement, non? Pourquoi sur Bombari, sur place, on n'a pas quadrillé la zone? On m'a parlé de ratissage et tout ça. Non. Ce sont des terroristes, il faut qu'on reconnaisse des terroristes. Et l'une des actions qui est la plus simple, on a un ministre terroriste qui est dans le gouvernement, on le démet déjà.
C'est plusieurs ministres terroristes dans le gouvernement et j'ai saisi la Cour constitutionnelle qui s'est déculottée.
Monsieur Ndouyabela, comment réagissez-vous aux propos des Centrafricains rapidement?
Je partage entièrement la préoccupation des uns et des autres. Il faut être vraiment honnête et dire que c'est un sentiment de ras-le-bol que nous tous nous partageons autour de la table. Et pour ça, je dis, je souscris entièrement. Je crois que le député Rachel l'a dit tout à l'heure. Oui, s'il y a des situations, je crois que le chef de l'État a entendu son appel. Pour moi, j'ai fait sciences politiques. C'est politique, ce n'est pas être ressortissant de l'ENA. Ça dit quoi? Ça dit être plus proche de la population. C'est ce qu'elle a souhaité tout à l'heure lorsqu'il y a des situations. Je crois que le chef de l'État a entendu dans son programme, peut-être de la semaine, il faudrait qu'il se rapproche de la population de Bambari, des Centrafricains, attestés. Je pense que c'est un message qui a lancé que le chef de l'État a bien entendu. Oui, mais on parle. Oui, il y a incompétence du gouvernement, comme le député Joseph Ndunga l'a dit. Incompétence du président. Incompétence du gouvernement. Bon, bah, moi, je vais faire une proposition, pas au chef de l'État, mais aux élus de la nation qui sont devant nous. Il faudrait désormais qu'on modifie un peu la constitution de manière à prendre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Par exemple, lorsque le président de la République est élu, on ne nomme plus de premier ministre. On dit le président de la République est élu, il organise un concours de recrutement des membres du gouvernement. C'est plus objectif. Le premier qui sera proclamé élu, il est premier ministre. Le deuxième, ainsi ministre d'État. Le troisième, ainsi dans l'ordre de mérite du concours de recrutement. On peut innover.
Mais est-ce que dans ce concours de recrutement, il peut y avoir
Non,
il n'y aura pas de fraude.
Pas de fraude. On met ça sur les personnalités extérieures à la République centrafricaine, la MINUSCA. Tout se passe là-bas officiel. L'opposition, ceux qui ont pris les armes, les partis politiques, tout ça, déposent leur candidature et on aura l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut.
Je donne la parole à Madame Rachel. Vous avez une minute, Madame Rachel.
Oui, j'avais autre chose à dire sur les différentes déclarations, mais oui, là, je rebondis sur ce que vient de dire le professeur. C'est de fuite en avant le président de la République qui nomme les gens. C'est un choix qu'il fait sur les personnes. C'est un choix délibéré. Il écarte les compétences. Actuellement, là, toutes les compétences sont dans les institutions internationales.
Centrafricaines ?
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc, comme lui, il a mis en place une politique d'encouragement de la médiocrité, de corruption. Quand tu voles, c'est là on te donne des promotions. Tout à l'heure, il y a Christian Emendo Taka qui a fait allusion à la distribution des grades aux jeunes, alors que ce n'est pas eux qui ont combattu sur le terrain pour donner un grade aussi important. Mais c'est par suite d'un acte de bravoure. Dites-nous exactement.
Il y a un Centrafricain qui posait la question de savoir pourquoi les généraux sont toujours à Bangui.
Mais ils sont à Bangui, le ventre ballonné, tout et tout.
Au point colonel sur le théâtre de guerre.
Donc, on leur a distribué des grades de généraux, de colonels. Mais c'est par suite de quel acte de bravoure? Moi, j'aimerais savoir. Donc, pour l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, non. Il n'y a pas de miracle. Le président, on se connaît tous dans ce pays. Il sait qui vaut quoi. C'est un choix délibéré qu'il a fait pour nommer des amis, des parents. C'est tout, à la mangeoire, c'est tout.
Oui, monsieur Bendunga, je vous donne 30 secondes.
Je voulais dire au professeur Louis Abela que vraiment, ce qui manque à notre président de la République, c'est la stature d'homme d'État. L'homme d'État n'a pas de sentiments. L'homme d'État ne voit que son peuple. Et comme l'a dit Bongo, Patassé, mire-toi. Dans ton peuple, ton miroir, c'est le peuple. Lorsque le peuple pleure, lorsque le peuple n'est pas content, systématiquement, le président de la République prend les mesures. Et quand les ministres sont incompétents, vous savez, quand j'ai entendu le ministre des Finances intervenir, quand j'avais écouté d'abord le premier ministre intervenir, et quand j'ai écouté le ministre des Finances maîtrise sa matière et j'ai dit aux députés, mais pourquoi Touadéra n'a-t-il pas nommé ce monsieur la Premier ministre? Donc vous voyez, un homme d'État reconnaît la qualité des hommes et quand madame a dit que toutes les compétences sont dans les institutions internationales, je dis non. On a beaucoup de compétences qui sont là et qui ne sont pas utilisées.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'avoir pris part à ce grand rendez-vous. Je rappelle que nous avions reçu autour de cette table M. Christian Emendota, qui est journaliste et observateur de la vie sociale et artisan de paix. Merci d'être venu.
De rien.
Merci aussi à vous, Alexis Duyabila. Vous êtes conseiller juridique, vous êtes conseiller politique du président de l'Assemblée nationale et ancien directeur de l'ENAM. Et aussi, merci pour votre participation pour la première fois, Madame Rachel Ngakola, députée de Bambari 1.
Il y a tellement de conseillers à l'Assemblée, alors c'est normal que vous puissiez vous tromper. Merci beaucoup, Monsieur Armando, de m'avoir invité à participer à ce débat.
Merci à vous, Monsieur Joseph Bendunga, député de Bimbo 3.
D'abord, merci à mes co-débatteurs parce que la qualité de ce débat-là sort de l'ordinaire. Si je les remercie
et je remercie les auditeurs de Radio Ndekeluka et aussi la manière avec laquelle vous avez piloté ce débat.
Voilà, Radio Ndekeluka, merci à toutes et à tous, à la partie technique. C'était le service de Tarsis Banga et rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.